Aujourd'hui, mais d'abord les nouvelles du monde. Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays. Un champ détruit par des animaux a déclenché des hostilités. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad. Ils opposent principalement éleveurs nomades, arabes et cultivateurs autochtones sédentaires. Au Nigeria, les gangs criminels à l'origine de l'enlèvement vendredi de certaines de lycéens dans le nord-ouest du pays auraient agi pour le compte de Boko Haram, mais les autorités espèrent réussir à négocier leur libération. 333 adolescents sont toujours officiellement portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat situé à Kankara, dans le nord-ouest du pays, mais les habitants de Kankara affirmé qu'il serait plus de 500 âgés entre 11 et 20 ans entre les mains de leurs ravisseurs. Au Cameroun, deux ONG internationales, dont Reporters sans frontières, ont demandé mercredi aux autorités du pays de publier les résultats de l'enquête sur la mort en détention en août 2019 du journaliste camerounais Samuel de Wazizi. Les autorités avaient mis 10 mois à reconnaître la mort de ce journaliste anglophone, arrêté le 2 août 2019 à Boya, dans la région sud-ouest, en proie à de violents affrontements entre l'armée et des groupes séparatistes. Il était accusé par le pouvoir d'avoir tenu sur sa chaîne des propos critiques à l'égard des autorités sur leur gestion de la crise dans les régions anglophones, selon le communiqué coécrit par RSF et l'ONG ACAT France. Le 5 juin 2020, le ministère de la Défense avait réfuté des actes de torture au service corporel et affirmé que M. Wazizi, actif au sein d'un groupe séparatiste, était mort d'une infection généralisée à Yaoundé le 17 août 2019. L'ONU est revenue sur sa possible stratégie de sortie de la RDC mardi, à quelques jours d'une décision du Conseil de sécurité sur l'avenir de sa mission présente depuis 20 ans au Congo. Le secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a mis en avant la sécurité, la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État dans l'est du pays où les Nations Unies concentrent désormais leurs forces. Ces critères fondamentaux seront soumis au Conseil de sécurité qui doit décider s'il y a lieu de diminuer graduellement la présence onusienne et ensuite d'envisager une sortie. Le Conseil de sécurité doit se prononcer d'ici le 20 décembre sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Toujours en RDC, un couvre-feu va être instauré à partir de vendredi dans tout le pays face à la deuxième vague du Covid-19 qui touche surtout la capitale Kinshasa, a annoncé la présidence mercredi. Cette mesure sera en vigueur de 21 h à 5 h du matin. Le Conseil de sécurité a donné mardi son feu vert au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour nommer le Bulgare Nikolai Mladenov comme nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye. Cette nomination survient 10 mois après la démission du Libanais Ghassan Salamé, officiellement pour raison de santé, mais il n'en cachait plus sa lassitude face aux violences par plusieurs membres de l'ONU, y compris au Conseil de sécurité, de leur propre résolution. Elle intervient aussi après 2 rejets de candidatures africaines par les États-Unis qui ont imposé à leurs partenaires une nouvelle structure de la hiérarchie onusienne en Libye. L'Afrique, qui martèle qu'il faut des solutions africaines à des problèmes africains, a réclamé en vain pendant des mois l'attribution de la fonction d'émissaire à un ou une africaine. Des associations et avocats se sont inquiétés mercredi du récent accord signé entre la France et le Maroc pour faciliter le retour des mineurs isolés marocains dans leur pays d'origine, dénonçant l'absence de transparence d'un texte qu'ils jugent potentiellement contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Ici aux États-Unis, Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, a adressé mardi ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire de la présidentielle du 3 novembre, au lendemain du vote des membres du collège électoral. Le nouveau Congrès fédéral est convoqué le 6 janvier pour dépouiller les bulletins des grands électeurs du collège électoral et ratifier la victoire de Joe Biden. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Dans 25 minutes, Le Monde aujourd'hui. Je vous retrouve juste après. Au revoir.
La Minute Éco avec John Linden pour VO Afrique. Afreximbank, l'African Export-Import Bank, annonce avoir levé 520 millions de dollars destinés à financer l'aide aux pays africains frappés par la pandémie de COVID-19. Selon le Financial Afrique, le prêt a été dirigé par la banque japonaise MUFG, une filiale de Mitsubishi UFG Financial Group. En République démocratique du Congo, au moins 7,5 millions de dollars sont attendus de l'adjudication des bons du Trésor de 3 mois d'échéance. Pour ce mois de décembre 2020, le règlement se fera jeudi 17 décembre 2020, selon une annonce du ministère des Finances. Sur le marché financier intérieur, le gouvernement congolais prévoit de lever 30 millions de dollars. Les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et des petites entreprises pourraient enfin arriver. Des élus républicains et démocrates du Congrès ont présenté lundi une proposition commune et appelé leurs leaders à la faire adopter avant Noël. 908 milliards de dollars pourraient être débloqués. Mais cette offre doit encore faire l'objet d'un compromis entre Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants, et Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat. Une fois cet obstacle franchi, le texte doit être approuvé par le président sortant, Donald Trump.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Wape, you know ya kwenye cha wape.